France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 16 octobre, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le difficile réveil des habitants de l'Aude. Après les pluies diluviennes et les inondations qui ont provoqué la mort de 11 personnes, c'est l'un des épisodes les plus meurtriers de ces 10 dernières années et les dégâts sont immenses. Routes défoncées, maisons inondées, voies ferrées impraticables, écoles fermées, la vie reste difficile autour de Carcassonne. Nous y serons dès le début du journal et on en parle avec votre invité Léa Salamé à 7h50.
Oui, Poulain de Nicolas Hulot, c'est l'écolo de La République En Marche. Alors, quelles leçons tirer de cette catastrophe? Quel lien faire avec le réchauffement climatique? Comment mieux prévoir de tels épisodes? On pose ces questions au député Mathieu Orphelin à 7h50.
Les autres titres, Agnès.
Pascal Pavageau poussé vers la sortie 5 mois à peine après son arrivée à la tête de Force Ouvrière. Un bitume anti-chaleur et anti-bruit à Paris et une affiche dont on ne se lasse pas, France-Allemagne ce soir en Ligue des Nations.
L'examen du budget a démarré à l'Assemblée et le débat se poursuit sur le pouvoir d'achat. Combien et pour qui? On posera la question à 8h20 dans le grand entretien dont l'invité est Amélie de Montchalin, députée La République En Marche. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
24 heures après le déluge qui s'est abattu sur l'Aude, les habitants sont toujours sous le choc. Plusieurs centaines de sinistrés viennent de passer la nuit chez des proches ou dans des centres d'hébergement. D'autres sont restés chez eux, dormant à l'étage, le téléphone portable à portée de main. Alain Gastal, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter dans l'Aude. Vous êtes précisément à Ville-Gaillenc, où il n'a pas plu cette nuit.
Non, il n'a pas plu de la nuit. Hein. Les routes sont pratiquement toutes sèches maintenant, même s'il faut être prudent. Il peut y avoir par-ci par-là quelques plaques de boue. Et puis, l'image, je dirais, la plus rassurante, hein, c'est la rivière, le Trapel, qui a tout emporté sur son passage hier soir. Tout le monde a vu ces images, ces photos impressionnantes, et qui, ce matin, comme par enchantement, a retrouvé son air de, et son cours de petits ruisseaux chantants qui traversent le village presque normalement, presque comme si de rien n'était. Sauf qu'évidemment, il n'y a plus le pont qui traversait le village et qu'il y a encore beaucoup d'amas de détritus, de déchets, des meubles, des branches d'arbres. Certains ont été amassés au pied de l'église. On voit encore des pare-brises de voitures qui traînent par terre, des voitures sans fenêtres, des amas de voitures encore. Il en reste quelques-uns, même si les pompiers ont commencé à travailler, ont commencé à déblayer. Le village porte encore, et pour longtemps encore, les stigmates du passage de cette tornade hier.
Et la nuit a été très difficile pour de nombreux habitants, Alain.
Alors la plupart ont voulu rester, certains ne peuvent pas, certains ont vraiment dû partir contraints et forcés parce qu'ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus d'ouverture, certaines fenêtres, certaines portes ont littéralement été emportées par le torrent. La plupart ont voulu rester quand même, donc ils vivent comme ils ont vécu la tempête, ils vivent au premier étage, donc ils n'ont pour la plupart pas de cuisine, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, c'est des conditions de vie un petit peu précaires, mais ils ont voulu pour rester dans le village, pour qu'il y ait encore de la vie, peut-être aussi pour sécuriser leur maison parce que tout est un petit peu ouvert à tous les vents. Heureusement, il y a aussi des patrouilles, hein, les gendarmes qui patrouillent dans le village, dans les ruelles, armés de leurs fusils, et puis également les militaires du 3e RPIMA qui contrôlent et qui sécurisent les entrées du village.
Merci Alain Gastal à Ville-Gaillenc ce matin pour France Inter. La circulation reste donc difficile. Côté SNCF, pas de train entre Narbonne et Carcassonne jusqu'à demain soir. Les intercités reliant Toulouse et Bordeaux sont également supprimées jusqu'à mercredi. Et la ligne SNCF entre Narbonne et Béziers est également impraticable. Édouard Philippe s'est rendu sur place hier après-midi avec le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, qui a annoncé une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Emmanuel Macron, qui se rendra sur place dès que possible, selon l'Élysée, a exprimé l'émotion et la solidarité de toute la nation envers les victimes. Les victimes avec un bilan ce matin qui s'établit donc à 11 morts, 9 blessés et 2 personnes toujours portées disparues. Et c'est la petite ville de Trèbes, théâtre d'un attentat au printemps dernier, qui paie le plus lourd tribut aujourd'hui avec 6 morts. Entouré par l'Aude, le canal du Midi et l'Orbière, le quartier des Capucins a été complètement inondé, puis évacué. Thibault Lefebvre a rencontré hier en fin d'après-midi les derniers sinistrés encore dans leur maison.
1,50 m d'eau dans la cour, un grand panneau en bois pour protéger le garage et derrière, une silhouette qui passe de chaise en chaise pour accéder au placard à nourriture. Ruy a acheté sa maison il y a 1 an et en quelques heures, il a tout perdu.
Faut m'aider.
Et Ruy raconte comment son épouse a essayé au milieu de la nuit de retenir la porte d'entrée qui a ensuite cédé. Il l'a sauvée sous les yeux de son fils de 12 ans, Pedro.
La porte, elle était bloquée en bas et il y avait une autre porte pour accéder du garage au jardin. Et bien mon père, il a réussi à l'ouvrir Et ma mère, elle est passée par là, sinon elle serait restée dedans à la salle et elle serait morte.
Pedro, sa petite sœur et ses parents ont passé la journée réfugiés dans une des chambres à l'étage jusqu'à l'arrivée à la nuit tombante des sauveteurs. Frédéric est responsable d'une équipe de secouristes.
Là, on vient d'évacuer effectivement 18 personnes qui étaient chez eux au bord du pont et auxquelles on n'avait pas pu accéder parce que les eaux étaient trop tumultueuses, c'était trop risqué pour nous pour y aller. Quand on est arrivé, on a récupéré un papy de 70 ans accroché à sa voiture. Ça faisait au moins 2 heures qu'il était accroché sur le toit de la voiture. On l'a récupéré, je pense qu'il était temps qu'on le récupère. Il était pas bien, en hypothermie certainement, et très fatigué.
Environ 300 sinistrés de Trèbes ont passé la nuit sur des lits de camp dans 2 centres d'accueil gérés par la Croix-Rouge.
Reportage de Thibault Lefebvre. Au fil des heures hier et au fur et à mesure qu'apparaissait l'ampleur de la catastrophe, une polémique est née sur l'efficacité des systèmes d'alerte. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a d'ailleurs évoqué une fragilité dans le système de vigilance de Météo France. La vigilance orange est très souvent utilisée et les gens ont tendance à ne plus vraiment en tenir compte et l'alerte n'est passée au rouge qu'à 6h du matin. Alors justement, comment fonctionnent ces systèmes? Réponse avec Delphine Evenou.
Avant même d'émettre une vigilance, Météo France commence par envoyer en amont aux autorités de gestion de crise des messages de préalerte. Dans le cas de l'Aude, les prévisionnistes ont prévenu vendredi la protection civile et le ministère de l'Intérieur qu'un phénomène potentiellement dangereux pourrait intervenir dans la nuit de dimanche à lundi. Cette nuit-là, un ingénieur de Météo France était donc place Beauvau, comme le prévoit le protocole. Les prévisions sont ensuite affinées, heure par heure, agrégées aux données communiquées par le CHAPI, l'organisme qui surveille les cours d'eau. Toutes ces analyses permettent ensuite au Centre national de Météo France de prendre la décision d'émettre une vigilance rouge, ce qui active obligatoirement une cellule de crise au sein des services de l'État, la préfecture, la protection civile, la zone de défense et une cellule interministérielle afin de pouvoir coordonner les secours. Encore faut-il que l'alerte soit déclenchée suffisamment tôt. Le phénomène de pluie stationnaire qui a frappé l'Aude est difficilement prévisible. Selon Météo France, il y a entre 2 et 3% d'événements ratés et environ 15% de fausses alarmes chaque année.
Et ajoutons que le département de l'Aude est en vigilance rouge jusqu'à 16h cet après-midi.
Il est 7h07, Agnès. Le départ de Pascal Pavageau ne serait plus qu'une question d'heure.
Le patron de Force ouvrière mis en cause dans l'affaire des fichiers comportant des mentions pleufateuses sur des cadres du syndicat a tenté hier de faire annuler la réunion de demain où il risque d'être mis en difficulté. Il n'a pas participé non plus hier après-midi à la réunion hebdomadaire. Mais l'issue de cette séquence, Laurent Kramer, ne fait guère de doute.
Pascal Pavageau avait réussi à créer l'unité autour de lui sur sa ligne politique. Ce scandale des fichiers crée aujourd'hui une unanimité contre sa personne, estime Dejan Terglav, secrétaire de la fédération FGTA-FO.
On a tout approuvé, la politique, la feuille de route. Moi-même, j'ai voté et ça a été fait à l'unanimité. Il avait le soutien de toute l'organisation avec les nuances de chacun. Mais là, c'est un autre problème. C'est un problème de fichiers et notamment des mots qui ont été employés. Surtout dans un syndicat qui se dit fraternel, on ne peut pas écrire ça sur les collègues ou sur des gens avec qui vous gouvernez. C'est comme si M. Macron aurait dit « mon ministre, il est con, l'autre, il est voleur ». Enfin, je veux dire, c'est impensable.
À quelques semaines d'élections professionnelles et au milieu d'intenses négociations avec le gouvernement, ce scandale met l'organisation Force ouvrière en danger et nous rend totalement inaudibles, explique Frédéric Gomez, secrétaire général des Métallos.
S'il est attaché à l'organisation, il doit une nouvelle fois prendre ses responsabilités pour sauver l'organisation FO. Et partir, l'organisation FO va devenir ingérable.
En interne, la succession de Pascal Pavageau est déjà entamée. S'il ne démissionne pas, nous enclencherons la tenue d'un comité confédéral national pour le démettre de ses fonctions avant ses principaux opposants.
Pascal Pavageau poussé vers la sortie, c'est à lire également sur franceinter.fr. Décidément, les résultats des votes au sein du parti Les Républicains ont du mal à passer, notamment l'élection dimanche du nouveau responsable des Jeunes Républicains, Oran Réhagnan, soutenu par Laurent Wauquiez. Hier, une cinquantaine de jeunes militants ont signé une tribune réclamant sa destitution, dénonçant des tentatives de fraudes avérées et l'utilisation nationale du fichier des adhérents. Elle n'a jamais cessé de fonctionner, même au plus fort de la guerre en Syrie. La chorale d'Alep opposait à la violence le chant et la musique. Aujourd'hui, les armes se sont tues, mais le quotidien des habitants d'Alep reste difficile. La chorale, elle, continue de se produire partout dans le monde et en France. Christian Chénou.
Même au plus fort des combats, la chorale d'Alep n'a jamais cessé de chanter, y compris quand le toit de la cathédrale Saint-Élie s'est effondré après un bombardement en août 2012. Pour ses membres, la chorale est devenue un refuge, une façon de s'évader et de rester humain, raconte Maria Malo, professeure d'université.
Sous les bombes, chacun laisse sa maison, on s'est réunis et chanté pour oublier un petit peu ce qui se passe dehors.
Vous êtes toujours resté pendant la guerre à Alep ?
Tout le temps. Moi et mes enfants et ma famille et mes parents aussi.
Votre maison a été bombardée, vous avez eu des tirs ?
Un petit peu.
Et donc le message aux Français, c'est quoi de leur dire que Alep va revivre ?
Bien sûr, pas va vivre. Elle vit. Elle vit tout le temps.
Mais sur place, au quotidien, les Alepins se débrouillent comme ils peuvent, explique Anwar Sabar, un commerçant de la ville.
S'il n'y a pas de l'électricité, on cherche quelque chose. On allume les bougies, il n'y a pas de l'eau. Mais malgré tout ça, on reste à Alep. Dans ma famille, quand il y a de la guerre, quand il y a des bombes, avec ma femme, je joue au piano, avec mes enfants, on chante dans la maison.
Et là, vous sentez que la guerre est finie maintenant ?
On pense. Espérons qu'elle a fini.
Raison de plus pour les membres de la chorale d'Alep de continuer à chanter et de montrer que l'âme de la ville, même meurtrie, reste bien vivante.
La chorale d'Alep qui se produit ce soir à Strasbourg, puis à Lyon, Marseille, Toulouse, Lourdes et encore Paris. Pour lutter contre la chaleur au cœur de la capitale, insupportable lors des épisodes de canicule, la mairie a déjà équipé certaines cours d'école d'un revêtement spécial et aujourd'hui ce sont trois rues du 15e arrondissement qui vont bénéficier d'un bitume anti-chaleur et anti-bruit. Maria Menkurdi s'est rendue dans le secteur de la place Cambronne.
Au milieu du concert incessant des moteurs de voitures, bus, motos et des odeurs de pots d'échappement, Anne-Sophie tient contre elle son nouveau-né.
Il y a des grands axes dans le quartier qui sont très très pénibles et qu'on évite par des chemins de traverse.
Sentiment partagé par Régine, habitante de ce quartier parisien depuis 28 ans.
C'est vraiment très fatigant, sans compter cette pollution qui nous fait mal aux yeux. Une chaleur beaucoup plus pesante qu'avant.
Ici, le bruit et les températures sont particulièrement élevés, d'autant que le bitume retient la chaleur. D'où cette idée en changer la composition. Célia Bloel, adjointe au maire en charge de l'environnement à Paris.
Ces bitumes ont des granules qui sont plus ou moins serrés et qui vont permettre de retenir l'eau en période de canicule si on viendra arroser ces chaussées avec de l'eau non potable pour justement rafraîchir le quartier. Ils vont être aussi plus clairs. On le sait aujourd'hui que la couleur permet de jouer sur la température ambiante dans un quartier.
Ces granulats blancs renvoient donc la lumière vers le ciel. Ce bitume anti-chaleur pourrait faire baisser la température de 3 degrés, mais aussi réduire la pollution sonore, comme l'explique Jérôme Lefebvre, responsable voirie à la mairie de Paris.
On travaille sur une porosité du matériau qui est un piégeur à son.
Pour l'instant, la phase test démarre. Des capteurs thermiques et sonores vont mesurer tout au long de l'année l'efficacité du système. S'il est concluant, il pourrait s'étendre à tout Paris et à d'autres villes européennes.
C'est le troisième match des Bleus en Ligue des Nations. La France reçoit l'Allemagne ce soir au Stade de France. La France en tête de ce groupe avec 4 points, quand l'Allemagne est troisième et dernière avec un seul point. Un match donc à ne pas rater pour la Mannschaft. Coup d'envoi à 20h45.
Merci Agnès Soubiran. La route, Élise Thibault.
Point route avec Bridgestone, numéro 1 mondial du pneumatique depuis 2009. Et le nouveau pneu toute saison, Bridgestone A005. Plus d'informations sur Bridgestone.fr.
Et des difficultés dans le Pas-de-Calais, Élise.
Et oui, il y a eu un accident sur l'A21 à Courcelles-lès-Lens, donc juste avant d'atteindre Douai, qui entraîne en ce moment une heure de bouchon. Dans l'autre sens, toujours sur l'A21, en arrivant dans le contournement de Lens, là, il y a une zone de travaux qui vous fait perdre une heure et demie. Soyez très prudents encore ce matin. Dans l'Aude, la circulation reste difficile, voire dangereuse, avec une cinquantaine de routes fermées. Encore cette nuit, les pompiers ont secouru une voiture emportée par les eaux.